Alors, je vous invite à tourner entre-temps dans le livre des Actes, au chapitre 17. Acte 17. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais par moments, il y a des moments où je suis encouragé quand j'entends toutes sortes d'histoires où des gens viennent à la foi, placent leur foi en Jésus-Christ. Et il y a des moments où je trouve ça plus difficile parce que c'est comme si la trame de fond dans notre société, c'est qu'on est contre-culturel. Le christianisme est quelque chose qui va contre culture, contre la vision du monde que les gens ont en général et régulièrement, il se passe quelque chose, soit dans les médias ou peu importe, il se passe quelque chose qui me rappelle à quel point le christianisme est contre culturel. On va à l'encontre dans notre vision du monde, dans notre vision de Dieu, dans notre vision de l'être humain. Et ce matin, dans le passage qu'on va regarder ensemble, bien, il nous est rappelé qu'en réalité, le christianisme a toujours été contre-culturel. Et en fait, dans les quelques moments dans l'histoire ou dans une société donnée, c'était plus hot d'être chrétien que de ne pas l'être. En général, c'est là que l'Évangile était le moins bien annoncé. Quand le christianisme devient la norme dans une société, les gens adhèrent à cette foi-là davantage par cohésion pour pouvoir avoir des avancements. C'est très clair dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du christianisme. Et l'Évangile se perd dans tout ce processus-là. Mais l'Évangile est prêché à son meilleur lorsqu'il est, comme c'est le cas généralement, contre-culturel et n'est pas accepté directement par la société, mais chaque victoire doit être gagnée une à une en prenant le temps d'exposer les Écritures. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, je veux te rendre grâce pour ce merveilleux livre des Actes, Seigneur, qui stimule ma foi, qui stimule ma vision missionnaire, qui me donne le goût, comme Paul, Seigneur, de présenter l'Évangile et de ne pas me badrer de toutes ces objections, mais prendre le temps de les écouter, d'aller y répondre, d'aller ouvrir la Bible, d'aller m'expliquer, Seigneur. Ça me fait du bien, ça fait du bien à ma foi. Tu me rappelles, Seigneur, que chacune de ces victoires sera le fruit d'une bataille. Chacune de ces âmes qui viendront à la connaissance personnelle de Jésus-Christ sera le fruit d'une victoire, d'une bataille gagnée, Seigneur. Parce que l'enjeu est le salut des âmes. Et Seigneur, ça me fait du bien que tu me rappelles cela cette semaine à travers le livre des Actes. Par ta grâce, Père, cette Église est engagée dans cette aventure totalement subversive, Seigneur, d'annoncer une bonne nouvelle qui sonne comme une mauvaise nouvelle, d'annoncer une bonne nouvelle qui semble venir d'être enterrée sous la poussière, Seigneur, et de voir une à une des âmes être percées dans leur carapace par la lumière de l'Évangile. Être libéré de toutes sortes de fardeaux, être réconcilié avec toi et entrer dans cette paix et cette joie merveilleuse. Seigneur, enseigne-nous cela ce matin. Enseigne-nous, Seigneur, à entrer dans cette aventure de la mission, à l'accepter, à l'embrasser, à s'équiper pour cette mission. Et Père, puisqu'on va parler de ces Juifs dans cette ville de Bérée qui avaient un cœur bien disposé pour examiner sérieusement ce message de l'Évangile. Je prie, Père, de parler à toute personne ici ce matin qui n'est pas chrétien, mais qui a besoin d'avoir un cœur qui s'ouvre justement à ce message pour pouvoir l'entendre. Viens, Seigneur, leur présenter, leur faire voir ce merveilleux Sauveur qui devait souffrir, qui devait ressusciter, qui est Jésus de Nazareth. C'est en Jésus-Christ que je te le demande, Père. Amen. Acte 17, versets 1 à 15, je vais vous lire le passage. Le livre des Actes, c'est vraiment le récit qui suit la mort, la résurrection de Jésus, son ascension. Jésus part, s'en va rejoindre le Père. L'Église commence à se constituer, à s'installer. Des missionnaires sont envoyés un peu partout dans l'Empire romain pour implanter, pour annoncer l'Évangile, mettre en place des églises progressivement. Et c'est à ça qu'on assiste dans le livre des Actes. Et donc, ces missionnaires vont se rendre de ville en ville. Et régulièrement, l'approche qu'ils vont prendre au départ, ils vont aller là où dans une ville, il y a le plus de connaissances bibliques, d'accord? Parce qu'on travaille toujours avec les Écritures pour pouvoir parler de Jésus. Alors, Paul, ce missionnaire, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il arrivait dans une ville, il s'informait. Est-ce qu'il y a ici des Juifs qui se réunissent à quelque part? Est-ce qu'il y a parmi ces Juifs des gens qui cherchent eux-mêmes, des gens qui ne sont pas d'origine juive, mais qui sont dans une démarche de recherche? Ils sont attirés par ce Dieu monothéiste des Juifs. C'était déjà quelque chose de particulier. Ce Dieu qui n'est pas comme les dieux, les divinités qu'on rencontrait chez les Grecs, par exemple. Des dieux qui étaient plus des hommes que des dieux. Tout ce qu'ils avaient de supérieur, c'était la puissance pour vivre leur vice. Ça ressemble beaucoup à ça. Mais le Dieu des Juifs n'était pas comme ça. Le Dieu des Juifs était présenté comme un être droit, pur, vrai, vraiment ce qui est bon. Et qu'il n'y a pas de vice en lui-même, qu'il n'y a pas de péché, qu'il n'y a pas de côté tordu. Donc, il y avait des gens qui étaient attirés à ça. Lorsque Paul arrivait dans une ville, première chose qu'il faisait, s'informait, est-ce qu'il y a une place où les Juifs se réunissent ici? Idéalement, est-ce qu'il y a même une synagogue? Ces écoles rabbiniques où on allait étudier, dans le fond, la loi, l'Ancien Testament. Il se rendait là, il annonçait l'Évangile à cet endroit-là. C'est à ça qu'on assiste ici. Acte 17, verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. La semaine prochaine, on va continuer dans le passage, dans ce passage-là, et puis on va retrouver Paul à Athènes. Et c'est vraiment intéressant de le voir dans son ensemble, d'accord? De placer ces deux passages-là en parallèle, parce que lorsque Paul va arriver à Athènes, il y a quelque chose qui se passe dans le récit des Actes. Paul va vraiment entrer en contact direct avec une culture qui n'a pas l'héritage des Juifs. Lorsque Paul va à Thessalonique, lorsqu'il va à Bérée, il s'en va présenter l'Évangile premièrement à des gens qui ont une certaine base, une certaine connaissance de la Bible et il va commencer à travailler à partir de là pour pouvoir leur présenter l'Évangile. Lorsque Paul va arriver à Athènes, on est ailleurs. D'accord? On est vraiment ailleurs. Et nous voyons à ce moment-là, juste dans ce... lorsqu'on prend le temps de regarder ces deux passages, toute l'adaptation que Paul va faire pour pouvoir rejoindre une autre culture. Alors, avant même de regarder le passage ce matin, je veux juste vous mentionner cela. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile, n'a jamais changé et ne changera jamais. D'accord? Ce message-là est le même, je vous dirais qu'il est le même depuis Genèse 1, jusque dans l'éternité. Ce sera toujours par l'Évangile, par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, ce sera toujours par l'Évangile que des gens vont se réconcilier avec Dieu, qu'ils vont devenir chrétiens, que leur âme va être sauvée, toujours. Maintenant, l'Évangile a toujours, le christianisme a toujours rencontré de l'opposition à travers tous les siècles. Et les chrétiens ont toujours su présenter l'Évangile dans des contextes différents. J'aimerais ça ce matin et la semaine prochaine, en lisant les passages, simplement que ces commentaires-là puissent ouvrir votre esprit. D'accord? La semaine prochaine, je vais m'appliquer davantage à montrer quelle approche Paul va prendre lorsqu'il va à Athènes. Et je pense que ce contexte-là ressemble beaucoup plus à notre contexte, à nous. Mais en même temps, il ne ressemble pas tant que ça. Puisqu'aujourd'hui, les gens doutent beaucoup plus même de l'existence de Dieu que les gens de l'époque pouvaient en douter. D'accord? Alors, le contexte a encore changé. Mais dans le simple fait que Paul n'aborde pas l'Évangile de la même manière dans un contexte juif ou de grecs qui sont déjà intéressés à tout l'Ancien Testament, la même manière qu'il va le faire lorsqu'il arrive à Athènes, par exemple, il y a des leçons fondamentales pour nous à apprendre. Ce que ça nous dit, entre autres, c'est que nous devons apprendre à comprendre la culture où nous nous adressons. Puis là, quand j'emploie ce mot-là, pour plusieurs d'entre vous, ça veut dire, ouais, c'est bon pour les pasteurs, il faut que tu comprennes ça lorsque tu nous enseignes. Non, non, non. La culture dans laquelle nous vivons, c'est celle où vos enfants vivent. Vos enfants vivent dans une autre culture que celle où vous avez grandi. Vos enfants posent des questions par rapport à l'Évangile que vous ne posiez pas. Vos enfants, lorsqu'ils entendent ce que la culture enseigne sur Jésus-Christ, puis là, je prends vos enfants, mais vous comprenez que si c'est des enfants de chrétiens, mais lorsque je parle aux enfants ou aux gens qui ne connaissent pas l'Évangile, c'est 100 fois plus évident encore. Mais par exemple, pour ces gens-là, vivre dans un univers où Dieu a créé le monde et sachant qu'une grande partie de la population mondiale va rejeter l'Évangile et donc va être damnée. En partant, ce que ça veut dire, c'est qu'on parle d'un Dieu immoral. Pour eux, c'est ça que ça veut dire. Si Dieu savait tout ça, c'est un être immoral. Mais ça, c'est la vision du monde aujourd'hui. C'est la vision du monde que probablement vos enfants, s'ils n'adhèrent pas à l'Évangile très jeune, et même plus tard, ils vont se poser ces questions-là, vont devoir vivre avec ces questions. D'accord? C'est la réalité. C'est la culture où nous vivons. Lorsque je vois ici la différence entre la première portion, celle qu'on voit ce matin, et celle qu'on va voir la semaine prochaine, je dois constater, je dois accepter que l'Évangile ne changera jamais, mais l'Évangile a toujours été présenté dans des cultures changeantes. Et l'Évangile continue à faire son chemin dans les cœurs. Mais je dois comprendre que comme chrétien, je dois devenir un étudiant de ma culture. Je dois apprendre à écouter ce que les gens disent. C'est quoi leurs questions? C'est quoi leurs objections? C'est quoi leurs doutes? Il n'y a rien de méprisable dans ça. Je dois apprendre à devenir un étudiant. Et c'est pas simplement pour le bonhomme qui est en avant puis qui est supposé avoir toutes les réponses à ce que la culture soulève. Parce que si c'est juste bon pour moi, quand vous allez présenter l'Évangile à vos enfants, à vos familles, à vos proches, ils ne comprendront pas de quoi vous parlez. Vous parlez une autre langue parce que vous ne les avez pas écoutés, vous n'avez pas compris quelle langue eux autres parlent. Comment ils voient le monde. Et vous devez commencer à les écouter pour pouvoir aller les rencontrer là où ils sont. Gardez ça comme leçon principale pour les deux prédications, celle de cette semaine, celle de la semaine prochaine. Deux contextes différents, une occasion extraordinaire pour nous d'apprendre, parce que l'histoire du christianisme nous a montré que ce n'est pas un problème fondamental pour nous. L'Évangile peut percer dans toutes les cultures. Ça demande à celui qui présente l'Évangile d'écouter la culture, d'arriver avec le même message, avec des approches qui sont souvent différentes pour entendre les objections de celui à qui je m'adresse. Comme on va le voir ensemble ce matin, s'il était absolument nécessaire, puisque c'est ce que la Bible dit, que le Sauveur souffre et ressuscite pour qu'on puisse être sauvé, mais on va voir ensemble ce matin que cela s'explique, ça se prouve et c'est à nous de le faire. C'est aux chrétiens de pouvoir prouver ces choses-là, le démontrer tant par la logique que par les saintes Écritures. Je résume ça à deux points. Le christianisme survit très bien aux examens. Ce n'est pas un problème. On n'a pas besoin d'avoir peur des examens. Notre Sauveur a été placé sous examen depuis des millénaires. C'est très bien comme cela. D'accord? Et deuxièmement, la souffrance et la résurrection du Sauveur étaient nécessaires. C'est logique que ça ait pris un Sauveur qui venait souffrir et qui allait ressusciter d'entre les morts s'il doit y avoir un salut. Premièrement, le christianisme survit très bien aux examens. Regardez dans Acte 17, les versets 2 à 4, voici ce qu'on lit. Paul y entra, donc dans une synagogue, je vous disais, il commençait par les synagogues lorsqu'il le pouvait. Alors il s'en va selon sa coutume, c'était toujours son approche. Et pendant trois sabbats, voici ce qu'il va faire. Il va discuter avec eux d'après les Écritures. On se replace dans le contexte, tu n'as pas le Nouveau Testament, tu as juste l'Ancien Testament. Alors à partir de l'Ancien Testament, il discute avec eux, il est en train de les enseigner. Il établissait, donc il faisait la démonstration, avant même de parler Jésus de Nazareth, que dans l'Ancien Testament, c'était clair que le Sauveur qui allait venir devait souffrir. Ça, c'était pas évident pour tous les Juifs à l'époque. Il y en a beaucoup qui attendaient un Sauveur, Super Power Man, qui s'en vient les sauver toute la gang, d'accord? Non, mais il s'en va dans l'Ancien Testament et il leur dit, non, ça c'est vrai, il y a un morceau qui vous manque. Le Sauveur devait souffrir énormément, c'est clair dans l'Ancien Testament. Il établissait cela et qu'il devait ressusciter d'entre les morts aussi. Ça devait se passer comme ça. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faisait ensuite? Il leur disait, ce Sauveur-là, il est venu. C'est Jésus de Nazareth. Laissez-moi vous raconter son histoire maintenant. Et vous allez voir que ce personnage qui est annoncé dans l'Ancien Testament, c'est un personnage historique maintenant qui a vécu. Je l'ai rencontré. Laissez-moi vous parler de lui maintenant. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, se joignirent à Silas, à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude des Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. À plusieurs reprises à travers les Actes, Luc veut simplement mentionner que les femmes vont jouer un rôle important. Ce sont des femmes souvent plus instruites, plus en moyens, plus cultivées, qui étaient en train de s'ouvrir à l'extérieur de leur propre culture et donc vont répondre à l'Évangile. De la même manière que les femmes ont joué un rôle important dans le ministère de Jésus, de la même manière elles vont jouer un rôle important dans l'établissement de l'Église. Et c'est un des petits éléments que Luc veut souligner à plusieurs reprises. La première chose que je veux souligner, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de mettre le christianisme sous examen. On n'a pas d'affaire à craindre cela. Je comprends que pour nous, c'est menaçant. Tu veux parler de l'Évangile à un ami à l'école, tu arrives au cégep, le prof est, je dis, moqueur, il parle de la foi. Si le christianisme est dépassé, pourquoi tu passes autant de temps à t'acharner contre le christianisme? Il y a toujours un prof de philo, ça le démange, faut qu'il plante le christianisme, d'accord? On est dépassé, mais on est encore assez d'actualité pour que ce soit ton sujet qui te donne le plus de mordant puis de chien dans ton cours. Hein? Fait que bon, toujours, on vit avec ça. Il faut faire face à ça. Le christianisme a toujours été placé sous examen, toujours été contesté. Et lorsqu'on arrive face à ça comme chrétien, ça peut être extrêmement intimidant. Je veux dire, c'est des gens quand même brillants, des gens qui réfléchissent, ils ont toutes sortes d'arguments. Dans notre culture, l'image qui est projetée, c'est que les plus brillants d'entre nous, dans cette société, ont rejeté le christianisme. Et ça peut être extrêmement intimidant. La réalité, c'est qu'à travers toute l'histoire du christianisme, qui est encore en croissance, et là, comme je vous dis, pas des chrétiens nominaux, la semaine dernière, je vous ai lancé des stats, tout ça, vraiment en croissance, de tout temps, ça a été ça l'image du christianisme. Ça a toujours été ça, d'accord? Et lorsque, à quelques moments dans l'histoire, la tendance a été renversée. C'est comme si on arrivait à un sommet et très, très rapidement, ça devenait extrêmement dangereux. Quand le christianisme est à la mode, le christianisme est en déclin. D'accord? Parce qu'on n'adhère pas à ça parce que c'est cool. Si tu adhères à la foi chrétienne parce que c'est cool, je sais déjà que tu n'as absolument rien compris à l'Évangile. t'adhères à l'évangile, t'adhères au christianisme parce que c'est une question de vie ou de mort pour ton âme. Il n'y a rien de cool là-dedans. Et donc, le christianisme a toujours été placé sous examen. Historiquement, la foi chrétienne a été mise sous examen à travers toutes les époques. Que ce soit sur la personne de Christ lui-même, sur sa mort, sur sa résurrection, ça se peut pas, c'est flyé, ça n'a pas de bon sens. Que ce soit l'inspiration des Saintes Écritures, que ce soit la divinité de Jésus-Christ, la question de l'Évangile lui-même, c'est ce qui a été attaqué le plus souvent par les êtres humains. Est-ce que vraiment tout le mal que le monde a fait pourrait être enrayé simplement par le sacrifice d'une personne? Oui, mais pourquoi est-ce qu'il serait damné 3 jours en quelque sorte, puis il nous sauverait éternellement? C'est quoi ces affaires-là? C'est trop beau pour être vrai, en somme. Donc, ça doit être une fable pour enfants. Le christianisme, historiquement, a toujours été placé sous examen. Et vous savez quoi? Avec les prétentions du christianisme, c'est logique que ce soit mis sous examen. Si la foi qu'on annonçait, c'était, regarde, j'ai un gars qui a vécu, puis il avait des bons principes, c'est un grand philosophe, puis il pourrait te donner comme tu sais quelques clés qui pourraient améliorer ta vie, puis peut-être lui, mais peut-être un autre, tu peux aller voir ailleurs aussi. Ben, je veux dire, si on s'acharnait contre lui, ça serait peut-être un petit peu injuste. Mais c'est pas ça le christianisme. Jésus arrive, puis il dit, tu peux croire en n'importe qui, n'importe quoi. Le gars, il peut vraiment être super bon. Si tu crois pas en moi, t'es damné pour l'éternité. Puis la vérité, il n'y en a pas ailleurs qu'ici. « Je suis la vérité », a dit Jésus de Nazareth. Vous comprenez la prétention qu'il y a là? C'est énorme comme prétention. Si vous ne placez pas votre foi en lui, vous êtes damné. Oui, mais il y en a combien qui vont placer leur foi en lui? J'ai déjà un problème moral, un problème mathématique énorme. Oui, mais ça veut dire que la majorité de l'humanité est dans l'erreur. Est-ce que ça mérite un examen? Me semble. Vous voyez, alors on n'a pas besoin, on n'a pas le droit même d'avoir un problème moral avec le fait que notre foi soit questionnée puis que les gens nous disent, regarde, explique-toi bonhomme parce que ça n'a pas d'allure ton enfant. C'est correct, c'est bien comme ça. Parce que la prétention du christianisme est absolument énorme. Puis le christianisme a quelque chose de subversif. Le christianisme vient rentre dans une société, puis les grands penseurs de cette société-là disent « Non, ça va mourir, oublie ça, ça va mourir, c'est fini. » Puis ça grandit par en dessous, mes amis, ça grandit par en dessous, ça grandit par en dessous. Et ça a été comme ça à travers toute l'histoire du christianisme. Il y a quelque chose de profondément subversif dans le christianisme. Le christianisme bouleverse des sociétés par en dessous tranquillement parce que c'est une vie à la fois qui devient radicalement décentrée d'elle-même. Transformer, tourner vers les autres, tourner vers Dieu. Regardez le commentaire, et c'est ça l'argument qu'ils se sont servis lorsqu'on va un petit peu plus loin dans le texte, au verset 6 et 7. Voici ce que ces Juifs-là, qui, bon, ils étaient de mauvaise foi, on s'entend, ils ont juste voulu comme se débarrasser de quelqu'un qui venait peut-être leur voler leur cote de popularité. Il y avait beaucoup de grands penseurs qui s'intéressaient au judaïsme. Mais si eux rejettent le Christ, ils ne veulent certainement pas que la population suive des chrétiens maintenant. Et voici ce qu'ils disent. Ces gens qui ont bouleversé le monde, on parle ici de l'Empire romain, leur compréhension, leur vision du monde à ce moment-là, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. C'est complètement injuste comme accusation. Sérieusement, Paul s'en allait pas là en disant, OK, les boys, on va faire une révolution, on va renverser ça, on va vous libérer de César. C'est justement ça qui frustrait les Juifs. C'est que Jésus est pas venu à ce moment-là pour libérer de l'envahisseur romain. D'accord? Mais en même temps, tantôt, le chant qu'on a chanté, c'est Christ est roi. En même temps, les chrétiens sont convaincus qu'au-delà de toutes les autorités qu'il y a dans le monde, il y a une autorité qui est au-dessus de tous, qui est Dieu, et dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. Et cela peut conduire un chrétien, dans certaines circonstances, même si généralement on est des bons petits citoyens qui allons voter, on lit les journaux, puis on dit « Boy, c'est tordu, il faut que j'aille voter pour tout ce monde-là, moi. Cherche lequel de la gang est le moins pire. Puis je devrais faire ça parce que je suis chrétien. OK, je vais aller le faire. Oui, merci, monsieur le policier, vous m'avez donné une contravention. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. » D'accord? Il arrive des moments où, comme chrétien, au contraire, l'autorité te dit « Tu te tais, je peux pas. » Non, c'est correct qu'on tue des enfants dans le ventre de leur mère. Non, je suis désolé, c'est un meurtre. Alors, il arrive des moments où les chrétiens disent « Il y a un roi qui est au-dessus de tous les rois de la terre. » C'est vrai qu'on dit ça. Comprenez? Parce que pour nous, il y a une loi qui est au-dessus de toutes les lois de la terre. C'est celle de la parole de Dieu. Le christianisme est subversif. C'est ça la vérité. D'accord? Pas de la manière que ces gens-là l'entendaient. Au contraire. Multipliez les chrétiens dans une société, vous allez faire du bien à cette société-là. C'est clair. À chaque fois que ça a été le cas, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Et il y a bien des sociétés occidentales qui ont pris la décision simplement de dire on ne mettrait pas plein de choses en place dans notre société, on va laisser ça aux églises de prendre soin des pauvres. Elles le font depuis toujours. Mais c'est à cause de ce témoignage-là qui est présent, d'accord? Maintenant, si je peux dire quelque chose à ceux d'entre vous qui seraient en train d'examiner le christianisme. Vous posez des questions, puis vous dites, c'est vrai que vous êtes une sirop de gang de prétentieux, puis peut-être que tu es dans un foyer chrétien. Tu as été élevé dans la foi chrétienne, puis tu regardes ça, puis tu dis, je suis pas sûr que mes parents sont dedans, c'est comme, c'est too much leur affaire, tu sais, c'est tout le reste du monde est d'un patate, tu sais quoi, j'ai de la difficulté avec ça. Je crois quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le passage ici pour toi, si c'est là que tu es rendu dans ton cheminement. Parce qu'on trouve à Thessalonique un groupe d'individus qui examinent, qui passent le prétendu sauveur Jésus sous examen, et on trouve un autre type d'individus aberrés. D'accord? À Thessalonique, clairement, on avait des gens qui étaient bornés, qui n'avaient pas un esprit ouvert. Un certain nombre d'entre eux vont croire, c'est vrai. Mais un grand nombre d'entre eux étaient tout simplement des êtres bornés qui, lorsque tu disais certains mots magiques qui les scandalisaient, se fermaient puis rejetaient complètement. Lorsqu'on arrive à Béré, ce n'est pas ça qui nous est dit. Dans ma traduction, c'est marqué d'un esprit plus noble. En réalité, ce que ça veut dire, c'était des gens qui étaient plus « fair » en français, d'accord? Ils étaient juste plus ouverts d'esprit pour prendre le temps sérieusement d'examiner. Et c'est ce qu'ils faisaient. Alors, si tu es en train de cheminer dans ta foi, j'ose t'encourager. J'ose t'encourager à ouvrir ton esprit pour être prêt à faire passer la foi chrétienne sous examen. D'accord? Il y a des choses qu'on dit comme chrétien qui te scandalisent peut-être. Est-ce que tu es prêt à ouvrir les Saintes Écritures pour aller voir si ça a du bon sens, cette affaire-là? Ou est-ce que tu vas t'arrêter dans ta course simplement à des préjugés? Qui va faire que tu n'arriveras pas à t'ouvrir. D'accord? Alors, je crois qu'ici, il y a un beau modèle chez les Juifs de Béré qui étaient prêts à avoir cet esprit ouvert à examiner les Écritures. Et c'est ce que j'aimerais t'encourager à faire. Acte 17, 11, voici ce qui est écrit. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un qui me dit « Regarde, moi j'ai un esprit ouvert, mais je vais examiner toutes les religions. Je vais y aller, je vais aller à fond dans ces affaires-là, je n'ai pas de problème. Tu veux lire le Coran? Va lire le Coran. Ça va me faire plaisir que tu lises le Coran, ça va classer tellement de choses dans ta tête. D'accord? Tu vas voir la différence. Mais juste partir. » Avec un raisonnement qui dit, oui, mais tu vois-tu tous ces gens qui croient dans le Coran? Il y a un mouvement tellement fort dans le monde, ça se peut pas qu'il n'y ait pas la vérité, ces gens-là. Puis, c'est une approche émotive qui n'est pas sérieuse. D'accord? Mais simplement ouvrir ton esprit pour dire, je vais aller examiner ces choses-là, je vais aller étudier. C'est ce que je veux t'encourager à faire. Maintenant, je reviens aux chrétiens. Si vous êtes des disciples de Jésus-Christ, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, c'est sous-entendu dans ce texte-là que si le Sauveur est placé sous examen, vous allez être placé sous examen. La même manière qu'on traite le christianisme en général, c'est vous qui êtes là pour l'incarner. Alors, c'est juste et légitime de m'attendre à ce que moi, si je dis que je suis chrétien, je sois placé sous examen. D'accord? Les gens vont me tester. Ils vont vouloir voir d'une part si c'est intelligent ce que je crois, mais d'autre part, si je suis conséquent avec ce que je prétends. Ils vont vouloir regarder comment est-ce que je vis, si je suis intègre dans ma foi, si je vis mes principes jusqu'au bout. C'est logique. C'est moi qui dois l'incarner devant telle personne. C'est toi qui dois l'incarner devant telle personne. Les parents, c'est vous qui devez l'incarner devant vos enfants. Et donc, c'est normal que vos enfants vous regardent à un moment donné puis qu'ils prennent une distance puis qu'ils disent « OK, prouve-moi-le, je veux le voir dans ta vie. Comment est-ce que tu réponds à l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile fait dans ta vie? Je veux le voir, ça. C'est normal. Et je dois assumer ça comme croyant. » parce que je suis là pour être une lumière dans le monde. Je dois être prêt moi-même à être placé sous examen dans ma foi. Et je vous encourage, encore une fois, les chrétiens, à accepter cela plutôt que de vous dire, ben, je vais me faire le plus discret possible avec ma foi, parce que c'est pas facile à vivre tout ça, d'être placé constamment sous examen. C'est notre rôle, c'est notre appel d'assumer cela, d'être prêt à ça. Ça demande du sérieux, ça demande de prendre ma vie chrétienne au sérieux, de marcher consciencieusement avec le Seigneur, parce que c'est moi qui est là pour refléter. Alors, le christianisme souffre très bien, supporte très bien d'être placé en examen. Et on ne devrait pas être mal à l'aise avec ça, les chrétiens. On devrait assumer cela totalement, au contraire, se préparer à cela. Deuxièmement, la souffrance et la résurrection du Sauveur étaient nécessaires et logiques. La souffrance et la résurrection du Sauveur étaient nécessaires et logiques. Je trouve ça vraiment intéressant que Paul s'en va dans les Écritures, s'en va dans l'Ancien Testament ici, et il dit, écoutez, il y a deux choses. Il y a deux choses qui vont être difficiles pour vous à accepter. Là, on parle à des Juifs, premièrement, des gens qui étaient au moins intéressés à l'Ancien Testament, même qui avaient une crainte de Dieu déjà, selon ce que l'Ancien Testament nous révèle sur Dieu. Et Paul dit, il y a deux choses qui vont être difficiles pour vous de comprendre. C'est que s'il y a un Sauveur qui vient, il doit souffrir, absolument. Il doit ressusciter d'entre les morts, absolument. Autrement, il n'y aura pas de salut. Les choses ne changeront pas. Et ensuite, ce Sauveur-là, c'est Jésus Nazareth. Dans le passage ici, il nous est dit que Paul a expliqué cela, qu'il a montré cela, qu'il a prouvé cela, qu'il a raisonné cela à partir des Écritures et qu'il connaissait très bien l'histoire de Jésus pour pouvoir démontrer la relation entre l'histoire de Jésus et ces passages-là de l'Ancien Testament. J'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à expliquer pourquoi, si Jésus est le Sauveur, il devait souffrir, il devait mourir sur une croix? Va discuter avec des musulmans. Tu es mieux d'être prêt à répondre à cette question-là parce que c'est clair pour eux dans leur esprit que si Jésus est véritablement le Fils de Dieu, c'est clair qu'il ne pouvait pas mourir sur une croix. C'est inadmissible que Dieu laisse son Fils mourir sur une croix. C'est un scandale. Non, c'est une nécessité. Il faut que tu sois prêt à répondre à ça. Est-ce que tu es prêt à expliquer ces choses-là? Pour certains d'entre vous, vous vous dites, non, mais j'ai pas une grande facilité à m'exprimer, c'est peut-être pas mon rôle de faire ça. Si tu es un père, c'est ton rôle de faire ça. Si tu es une mère, c'est ton rôle de faire ça. Si tu es un frère, c'est ton rôle de faire ça. Si tu es une soeur, si tu es un être humain puis que tu es chrétien, c'est ton rôle de faire ça. Chacun avec une mesure de don différent, vous comprenez? Chacun avec une mesure de don différent. Moi, j'ai pas la prétention d'être l'apôtre Paul pour Saint-Saëns. Et certains d'entre vous, vous écoutez des enseignants enseigner dans l'Église, vous parlez avec des gens, puis vous dites, c'est tellement clair quand lui, il explique, j'aimerais tellement ça que tu le rencontres. C'est correct, on a tous des mesures de don différents. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais chacun d'entre nous, nous sommes appelés à nous équiper, à connaître les Écritures pour pouvoir faire un bon bout de chemin avec les gens. Autrement, ce que je vais faire, c'est que je vais prier pour que les gens autour de moi entendent l'Évangile, mais je sais très bien que lorsque j'ouvre la bouche pour expliquer l'Évangile, ça devient inintelligible. Je m'adresse à des gens qui comprennent pas de quoi je parle. Dans le meilleur des cas, ils vont trouver ça cute qu'il y ait encore du monde aussi naïf sur la terre. C'est vrai, mais je veux dire, vous l'avez vécu, là. On l'a tous vécu, d'accord? Et là, il faut que je sois capable d'engager la conversation pour dire non. Moi, je pense que je ne parle pas de naïveté ici, je pense que je parle de lucidité. Oh, là, tu vas falloir que tu t'expliques, mon homme. Là, il va falloir que tu t'expliques, parce que si tu penses que toi, tu es lucide, moi, je pense que tu es un naïf. On va ouvrir ensemble les Écritures. Et aujourd'hui, à notre époque, il n'y a aucune raison pour qu'on ne soit pas en train de grandir et s'équiper de plus en plus. Je vais faire une plug publicitaire ce matin. Non, mais je veux juste dire simplement, il n'y en a pas d'excuses pour ne pas grandir là-dedans, d'accord? Il y a tellement de ressources disponibles pour apprendre. Premièrement, les Écritures, connaître la Bible sur le bout de vos doigts. Lire les Écritures, apprendre ces choses-là. Quand c'est du chinois, c'est parce que vous ne comprenez pas la culture, venez prendre des cours. On donne des cours pour ça ici, pour vous aider à comprendre de quoi ça parle, cette affaire-là. Quand Robert s'en vient avant et qu'il utilise des mots à 100$ comme expiation, propitiation, de quoi on parle? On donne des cours pour expliquer ça. D'accord? Et Robert a très bien fait sur la question de la propitiation. Il dit l'expiation. Je me dis, oh non, OK, il faut expliquer ça. Comprenez? On donne des cours pour ça. Maintenant, il y a plein de ressources. Après ça, dans ce qu'on appelle l'apologétique, la défense de la foi, le livre de Tim Keller, Une raison pour Dieu, la raison pour Dieu, excellent outil. Allez le chercher au comptoir de livres, allez l'acheter. Il en reste une copie, est dans mes mains. Allez l'acheter après le service, d'accord? Lisez ça, équipez-vous pour ça. Josh McDowell, excellent travail. Le verdict, complément d'enquête. Alors, Josh McDowell en a écrit quelques-uns. Il fait un très bon travail, d'accord? Lee Strobel, Jésus, la parole est à la défense. Il y en a plein. J'aurais pu vous en apporter une dizaine ce matin. Il y a des ressources pour apprendre, à être équipé, pour être prêt à faire ce que Paul fait ici. Et comme je vous dis, c'est pas simplement le travail de ceux qui sont en avant de faire ça. Parce que si vous vous dites cela, ce que ça veut dire, c'est que vous ne serez pas capable de répondre aux questions de vos enfants lorsqu'ils vont arriver au primaire. Au primaire. Mes enfants au primaire arrivaient avec d'excellentes questions. Attendez le secondaire. Attendez le cégep, il ne reste plus rien, là. Alors, il faut que vous soyez prêt à répondre à ces questions. Puis là, je vous donne l'exemple de vos enfants, simplement pour dire que tout le monde est impliqué là-dedans. Parlez avec votre voisin, parlez avec un ami dans la famille. Il faut être prêt à faire ça. Je sais que c'est un défi, je sais que c'est intimidant. C'est ça qu'on doit poursuivre ensemble. D'accord? Autrement, on va se reposer sur d'autres choses pour se dire que les gens vont venir à l'Évangile. Puis là, on met tous nos efforts à dire, non, mais on va être tellement beau dans nos comportements, nos attitudes, qu'ils vont être intrigués, puis ils vont venir. Oui, des fois. Mais c'est pas avec ça que Paul est allé. Il n'a pas dit, on va construire une œuvre de charité à Thessalonique, puis on va faire du bien à tout le monde. Il est arrivé avec un message subversif, contre-culturel. Il est rentré dans le tas, puis il est allé dans le débat. D'accord? C'est ça qu'il a fait. La souffrance et la résurrection de Jésus étaient absolument nécessaires. Paul était prêt à aller dans l'Ancien Testament pour expliquer cela. Il pouvait l'expliquer sur une base logique, premièrement. Ce matin, je ne vais pas aller voir tout ce qu'il a pu dire. D'abord, parce que je n'ai pas le temps de le faire. Mais deuxièmement, parce qu'on ne le fait pas, on n'a pas toute cette info-là dans le texte. D'accord? Avec la prédication de la semaine prochaine, on va aller un petit peu plus dans ça. Mais Paul était prêt à le faire sur une base logique pour commencer. Lorsque je parle avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, cette personne-là peut avoir toutes sortes d'objections logiques. Dans son esprit, ce n'est pas logique, cette affaire-là. Il faut déjà au départ que je sois convaincu et que je sois capable d'argumenter en disant « Non, mais c'est logique. » Est-ce que c'est pas logique lorsque je regarde l'état de l'humanité? Est-ce que c'est pas logique lorsque je regarde l'état de la Terre? Là où les choses s'en vont, de dire qu'à un certain moment donné, ça va nous prendre quelqu'un qui va nous sauver de cette affaire-là. Est-ce que c'est pas logique lorsque je vois toute la souffrance et tout le mal que les hommes se font entre eux? Dans une injustice incroyable et tous ces abus-là, que si on peut sauver l'humanité de ça, il y a quelqu'un qui va devoir souffrir pour y arriver. On n'arrêtera pas autant de mal que ça sans qu'il y ait quelqu'un qui souffre pour arriver à ça, parce que ça ne va pas simplement se faire dans une classe avec des petites craies qui dit « À partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus de mal à ton prochain. » Il y a quelqu'un qui va souffrir pour que le cœur change et que le cœur désire faire le bien. Alors, il faut que je sois prêt simplement à réfléchir avec les gens là où ils sont. Puis après ça, aller dans les Écritures. Alors, certainement, Paul est allé tout simplement dans ce que Robert a mentionné tout à l'heure. Tout l'Ancien Testament pointe vers un Sauveur qui va souffrir. Parce qu'à chaque fois qu'il y a salut, à chaque fois qu'il y a pardon dans l'Ancien Testament, cela implique de la souffrance. Dans ce cas-là, c'était des agneaux. Dans ce cas-là, c'était des sacrifices, mais ça pointe vers la nécessité d'une souffrance pour qu'il y ait un rachat, une rédemption, qu'il y ait un salut, qu'il y ait un pardon. Alors, Paul a pu aller dans plein d'images de l'Ancien Testament qui pointent vers un sauveur souffrant. Mais Paul a pu aller dans des passages aussi qu'il disait de manière beaucoup plus explicite. Pensez au psaume 2, pensez au passage dans Ésaïe, pensez à Deutéronome 21. Prenez le temps d'aller lire ces passages-là, et ces passages-là annonçaient un Messie qui allait souffrir. Ésaïe 52, versets 13 et 15, simplement pour donner un exemple ce matin. « Voici mon serviteur prospérera. » Là, on est dans un texte prophétique. « Il montera, il s'élèvera bien haut. » De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup, beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Paul pouvait ouvrir Ésaïe 52 puis poser la question aux Juifs, « Mais de qui est-il question ici? » Puis lire après ça Ésaïe 53. Puis dire, mais c'est qui ce sauveur-là qui va souffrir comme ça, qui va être fait malédiction? Puis après ça, aller dans Deutéronome 21, qui dit que celui qui est pendu au bois a été maudit de Dieu. Puis après ça, tranquillement rentrer dans l'histoire de Jésus. Puis là, leur dire, laissez-moi vous parler d'un personnage historique. Plein de témoins peuvent vous parler de lui. C'est un gars qui a existé. Laissez-moi vous dire les choses qu'il a dites, les choses qu'il a faites et comment sa vie s'est terminée. Alors, voyez-vous, Paul pouvait aller dans l'Ancien Testament, discuter avec les gens, leur démontrer à partir de l'Ancien Testament que si les choses doivent changer, si les hommes doivent être sauvés, ça va prendre un sauveur qui va souffrir pour ce salut-là, pour le salut des hommes. Ça va prendre un sauveur qui ne va pas simplement mourir, mais qui va ressusciter parce qu'il va être un homme différent, un nouvel Adam. On va avoir un nouveau départ avec cette première résurrection-là. Et nous-mêmes, on va appeler à entrer dans cette vie-là, nous aussi à devenir comme ce Jésus-là ressuscité. Paul était capable de faire cela dans l'Ancien Testament. Puis Paul était capable de raconter l'histoire de Jésus et dire, voyez-vous, sa vie, sa biographie concorde tellement avec tout ce qui était annoncé comme ça dans l'Ancien Testament. Et ainsi, il pouvait leur présenter l'Évangile. Et quelques-uns d'entre eux venait à la foi et il disait, c'est vrai, les temps sont accomplis. Les temps sont venus de placer ma foi dans un sauveur qui est Jésus de Nazareth. Le gars qu'on appelle Jésus de Nazareth est bel et bien ce personnage-là incroyable qu'on voit apparaître en filigrane à travers l'Ancien Testament. Et Paul leur montre, regardez, il est ici, c'est lui. Et des gens décidaient de placer leur foi en lui. Je ne sais pas où est-ce que tu es dans ton cheminement par rapport au christianisme. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas chrétiens. Ce n'est pas un jugement, je ne sais pas d'être condescendant en disant cela. Je le sais simplement parce que c'est tout un processus, c'est tout un cheminement. Moi, j'ai été élevé dans l'église évangélique, dans cette église-ci, d'accord? J'ai entendu parler de l'évangile à partir de l'âge de 6-7 ans. La manière que je comprends les choses, je me suis converti vers 18 ans environ. Je connaissais plein d'affaires, mais il y avait tellement de conflits dans mon esprit, tellement de conflits dans mon cœur. Alors, j'ai énormément de respect pour chacun d'entre vous dans votre processus, dans votre cheminement. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu. Ce que j'aimerais vous encourager à faire ce matin, c'est à vous dire, c'est bien. C'est bien, le christianisme peut être placé sous examen. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, je vous encourage à le faire avec un esprit ouvert, puis avec une attitude consciencieuse. Faites-le sérieusement. Venez pas à l'église simplement parce qu'on vous traîne par les cheveux ici. Venez pas ici parce que votre arrière-grand-père allait là puis ça lui faisait du bien. Ça le recentrait sur la vie. Faites pas ça pour ça. Soyez sérieux là-dedans. Allez-y à fond. Votre conclusion, c'est que c'est pas le christianisme. Allez chercher ailleurs. Faites le tour. Moi, je suis convaincu que si vous regardez assez longtemps ailleurs, vous allez revenir ici. Peut-être pas à cette église-ci. Au christianisme. C'est pas de problème, mais je vous encourage. Ouvrez votre esprit, soyez sérieux comme les Juifs de Béré pour aller examiner les textes ensemble. Et pour vous, qui avez placé votre foi en Jésus-Christ, qui êtes des disciples de Jésus-Christ, est-ce que vous êtes prêts à défendre, à expliquer le christianisme? Est-ce que vous êtes en mesure de dire, je comprends les questions de mon époque, je comprends les objections de mon époque, je suis un étudiant de mon époque et lorsqu'ils arrivent avec leurs questions, je comprends que j'ai des devoirs à faire. Parce que ma foi est une foi intelligente. Oui, c'est de la foi, mais elle vient d'une parole qui est extraordinaire, c'est la Bible. Je peux la comprendre, je peux l'étudier et je peux apporter des réponses. Et enfin, est-ce que vous acceptez que vous allez être placé sous examen? Vous êtes placé sous examen par les gens autour de vous. Parce que vous paraissez comme une gang de prétentieux qui disent « Jésus est la vérité ». S'il faut que tu aies le courage de dire ça, tu es mieux d'être prêt à être examiné. Ça implique la souffrance. Dans le cas de Paul, mais regardez son attitude, il vient de vivre des moments difficiles juste avant qu'on arrive au chapitre 17. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses bagages, passe au prochain appel, il arrive à Thessalonique, s'en va à la place la plus probable où il va pouvoir annoncer l'Évangile, l'annonce autant que c'est possible. Lorsque sa vie est mise en danger, qu'est-ce qu'il fait? Passe au prochain appel. Mais à un certain moment donné, tu dois commencer à être essoufflé de faire ça. Jean Calvin parlait de cette passion, de ce feu qu'il y avait dans le cœur de Paul. Sa mort avec Christ et sa résurrection avec Christ faisait qu'il y avait une passion pour la croix qui l'amenait à ne faire aucun cas des souffrances qu'allait entraîner dans sa vie le fait d'avoir le courage d'annoncer constamment l'Évangile. Alors, si tu as cessé d'annoncer l'Évangile parce que tu as fait face à des objections, à du mépris, à des résistances, tu as été ridiculisé parce que tu n'étais pas capable d'expliquer l'Évangile, de défendre l'Évangile, retrousse tes manches, charge-toi de ta croix. Fais tes devoirs, va étudier la Bible. Peut-être que c'est vrai que tu étais pourri. Tu ne savais pas comment défendre l'Évangile. Va faire tes devoirs. Prends les opportunités qu'on t'offre. Équipe-toi. Et chaque fois que tu rencontres une objection, passe au prochain appel. Passe au prochain appel. Parce que quelques-uns d'entre eux vont être atteints par cette grâce qui va commencer à faire son chemin dans leur cœur. Puis ils vont dire, et si, en fin de compte, Jésus-Christ était la vérité? Ils vont commencer à étudier les Écritures, prendre des cours comme la foi chrétienne expliquée. Ils vont venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es extraordinaire, Seigneur. Et sans aucune gêne, j'affirme, Seigneur, que tu supportes très bien tous les examens que toutes les cultures et tous les hommes pourraient te faire passer, Seigneur. Je suis bien conscient, Seigneur, que plusieurs quitteront la conversation en se moquant. Plusieurs mépriseront ces idées comme celle de la résurrection. Pourtant, Seigneur, j'ai confiance. J'ai cette assurance que la foi chrétienne est une foi intelligente. Que c'est celle qui explique le mieux l'histoire de l'humanité, notre état, notre destinée. Que l'Évangile est celui qui vient donner des réponses aux énigmes du cœur et de l'âme humaine, Seigneur. Je te prie encore une fois de nous équiper comme Église, Seigneur, de nous donner ce courage, celui que Paul avait, d'étudier la culture, d'étudier les Écritures et de remettre 100 fois sur le métier ce grand travail d'apprendre à présenter l'Évangile à nos proches, à nos familles, aux gens qui nous entourent, à cette ville, Seigneur. Père, je te prie pour ceux au milieu de nous qui sont sceptiques et qui ont des questions. Accorde-leur cette grâce d'avoir un esprit ouvert et de se retrousser les manches pour regarder les Écritures et de te passer en examen, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir la grâce de découvrir l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'aime, je suis extrêmement fier. Et c'est ma gloire, Seigneur, de te connaître. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen.